bien, merci. Donc, nous nous retrouvons ici avec Charles D'Ambrosio et Jack O'Connell. Alors, j'avoue que je n'ai pas vraiment préparé un entretien de 45 minutes. Donc, ils m'ont dit que ce n'était pas grave, je pouvais leur poser n'importe quelle question. Nous allons parler pendant 45 minutes à peu près, puis ensuite, vous poserez des questions très compliquées, comme ça, ça pourra enrichir le débat. Et comme ça, tout se passera bien. Alors, je voudrais simplement les présenter rapidement, tous les deux et chacun un petit peu, en 5 minutes. Et ensuite, on échangera, on passera aux questions. Donc, je pense que le travail des Belles étrangères est tout à fait remarquable parce qu'ils nous ont fait venir ici à Bordeaux deux écrivains qui sont à la fois radicalement opposés au point de vue écriture, mais en même temps avec quand même des thématiques qui se ressemblent un petit peu, même si dans la forme, c'est vraiment totalement différent. Et on a comme ça un échantillon absolument excellent de la littérature américaine qui est vraiment très puissante, très très riche, d'une variété incroyable et qui est tout à fait... qui est vraiment magnifique à lire. Alors, tous les deux, je dirais, traquent ce qu'on pourrait appeler les failles de l'âme humaine et les drames que cela va générer sur les autres personnages. Alors, dans le cas de Jack O'Connell, le premier à ma droite, c'est une œuvre explosive, véritablement. Je pense qu'il y en a peut-être qui le connaissent déjà. Alors, je vous montre les livres un petit peu comme on faisait à apostrophe. Ça, c'est les livres anglais, en anglais, hein, The Skin Palace. Après, il y en a un qui est traduit en français et qui va ensuite lire, qui en anglais s'appelle The Resurrectionist, en français, Dans les limbes. Ensuite, il y en a encore un qui s'appelle Word Made Flesh. Voilà, qui est aussi en français. Voilà, et le verbe s'est fait chair. Voilà, nous allons faire à toutes les deux, vous montrer les livres. Après, il y a Wireless.
Il est sur la petite table, Onde de choc.
D'accord, voilà, Onde de choc, qui se passe dans le monde de la radio. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai, mais il y en a peut-être encore d'autres. Voilà. Alors, ce sont d'abord des romans, vous voyez, c'est un roman. Pour D'Ambrosio, ce sont des nouvelles, donc ce sont des recueils de nouvelles que nous avons. C'est vraiment des romans d'une richesse absolument extraordinaire. C'est débordant de personnages, de scènes très, très étranges. Et dans le cas de Charles D'Ambrosio, ce sont donc des nouvelles, pas très, très courtes, hein, qui font quand même 30, 40 pages pour la plupart. Mais c'est une écriture radicalement différente, plutôt intimiste. Alors évidemment, c'est ce que la nouvelle permet de faire. Hein. Bon, il peut y avoir aussi des romans intimistes, bien entendu. Mais avec O'Connell, c'est plutôt des grandes fresques, mais dans un monde assez noir. C'est-à-dire que c'est du roman noir, baroque, avec des intrigues semi-policières, mais c'est pas le but final du roman, c'est pas simplement du Harlan Coben ou des choses comme ça, hein. C'est pas du simplement trouver qui a commis le crime, c'est vraiment toute une méditation sur le monde, sur la société. Alors, pour rester à Jack O'Connell, il a inventé un monde très spécial qui s'appelle Quizigamon, qui est une ville qu'on estime être de la Nouvelle-Angleterre, New England, about that area. Yes, en tout cas, c'est le nord-est. C'est-à-dire qu'à l'automne, vous avez les érables avec les feuilles rouges. Donc, vous savez, vous n'êtes pas du tout en Californie. Et c'est une ville assez standard, une ville américaine, avec une grande banlieue, bien entendu, où la vie paraît tout à fait monotone. Mais sous ce décor-là, tout à fait banal d'une ville banale, en fait, se trame énormément de choses tout à fait perverses, horribles, des mutilations, des gangsters, des... Le premier que j'ai lu m'a vraiment fait un choc, c'est Word Made Flesh, où ça commence par la crucifixion d'un malfrat dans le milieu de la pègre, un petit peu comme à Chicago à l'époque d'Al Capone, et ou dans Le Parrain, dans les films. C'est aussi très cinématographique, hein, Jack O'Connell. Donc, on le crucifie littéralement. Et en fait, la personne qui le crucifie, je vous révèle pas tout le livre, hein, mais c'est un jésuite fou qui a pour mission de nettoyer la société, puisqu'on est toujours, évidemment, dans ce contexte américain de conviction que la société est pourrie, qu'il faut absolument la nettoyer, et seul le verbe, d'où le titre, hein, le verbe, c'est-à-dire Dieu et Jésus, pourra nettoyer la société. Et pour vous en dire un petit peu plus sur ce roman qui m'a beaucoup marqué, après on pourra ouvrir les questions, je lui poserai comment il a trouvé ce genre de roman. Ce sont des métaphores religieuses absolument partout, même dans les lieux de la ville, chaque lieu a un sens très biblique. Vous avez, par exemple, alors je ne sais plus, mais il y a un lieu qui s'appelle Apparition, par exemple. C'est très, très... Visitation. Et il y a un café où se retrouvent des gens très, très étranges qui se transmeut en une espèce d'hôtel d'une secte apocalyptique. Alors moi qui adore évidemment les religions américaines, je suis gâtée. Et cette secte apocalyptique est fondée par un jésuite complètement fou qui interprète la publicité qui peut circuler dans la ville comme étant la parole de Yahvé. Donc vous avez une espèce de mélange de la Bible, de la publicité et de la vie de ces gens très ordinaires qui est très, très surprenante. Et le lien entre tous ces personnages, c'est un chauffeur de taxi juif qui travaille la nuit à coups d'amphétamine et qui prend tous ces truands quand ils sortent d'avoir réglé leurs affaires dans des bars plus ou moins sordides et qui les amène là où ils doivent aller. Alors on ne le paie pas, bien entendu. S'il demande de l'argent, on le flingue. Et il raconte les histoires. Et donc il parle sans arrêt. Et il parle de l'importance du verbe également, bien sûr. Donc c'est très, très étrange. Alors je lui demandais tout à l'heure, je lui disais qu'il avait dû lire Manhattan Transfer et John Dos Passos. Pour ceux qui l'ont lu, c'est un petit peu ce genre d'ambiance, mais c'est encore plus noir que Dos Passos. Mais c'est un peu ce fonctionnement avec des histoires qui sont un petit peu les unes dans les autres. C'est tout à fait extraordinaire. Mais vraiment, c'est un film noir, je dirais, passé au crible d'une conscience obsédée par la parole, avec un grand P, bien sûr, par la Bible. Et c'est surtout un Dieu aveugle au destin de sa créature. C'est ça qui est tout à fait surprenant, enfin, que j'ai trouvé surprenant. Et en même temps, c'est vraiment une grande méditation sur le mal. Mais c'est dur, enfin, je veux dire, c'est dur au sens de c'est très violent à lire. Voilà. Tu as traduit tout ce que j'ai dit ? Non.
Non.
T'as pas fait du simultané. Bon, d'accord. Do you want me to translate what I said ? No, not to say in a few words. Did you understand my French ? No.
I was picked out a few words.
Okay, fine. Bon, alors je vais. Okay, so I'll ask you questions afterwards. I will talk a little bit about you, Charles. Okay. And we'll say very nice things too. Don't worry. Je lui poserai des questions après sur d'autres livres. Alors, Charles D'Ambrosio est venu ici il y a déjà 2 ans. Peut-être quelqu'un l'avait vu. Il est venu en 2007, I think it was, right? You came in 2007, yeah. Et pour présenter justement la publication en français de ces deux livres que vous avez là, Le Musée des Poissons Morts et puis Orphelin. Et je me souviens avoir lu ces livres à ce moment-là et j'avais été absolument impressionnée par son style. Alors ce sont des petites nouvelles et c'est très simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'exubérance, vous n'avez pas tous ces personnages que vous avez là-dedans. C'est pas le milieu de la mafia, c'est pas un milieu sordide, mais c'est tout aussi tragique. Mais il va décrire davantage la tragédie d'un individu, d'un couple, par exemple. C'est également très autobiographique, ce que j'avais découvert lorsque je lui en avais parlé, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de frères, de suicides, de pères fous, etc. Et je pensais que c'était de la fiction, et en réalité, c'est pas de la fiction, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup de sa famille, où il a une famille qu'il a vécu quand même, une famille assez étrange, avec beaucoup d'enfants, mais beaucoup de gens qui ont fini soit fous, soit des tentatives de suicide. Et c'est par petites touches, mais c'est en même temps une écriture très précise, hein. C'est pas... comment dire, c'est à la fois des nouvelles sur des bribes de choses, mais ça n'est pas impressionniste, c'est-à-dire que c'est d'une clarté impressionnante. Et c'est, par exemple, il y en a une aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est L'Homme qui tombe, mais je ne sais plus, c'est par exemple la vision du 11 septembre, hein, des attentats, et au lieu de nous faire quelque chose sur le drame national, tout ce qu'on a vu à la télé, revu, qu'on continue à revoir, et qui finalement finit par perdre son sens, lui, cela va être perçu par un homme qui tombe des tours, et il se souvient absolument que de ça. Et la tragédie de cet homme qui tombe des tours, en fait, prend une importance bien plus importante que si on voyait à nouveau, vous savez, les avions qui rentrent dans les tours et des choses comme ça. Et... il y a également dans le livre qui vient d'être traduit, qui est absolument magnifique, donc qui a été traduit par Le Gap, alors qu'en anglais c'est The Point.
Hein?
Le Cap. Le Cap, pardon, je crois que c'était Le Gap, c'est pour ça que je ne comprenais pas trop. Le Cap, en anglais c'est The Point. C'est pareil, c'est son premier recueil de nouvelles et c'est. Enfin, elles sont fabuleuses. C'est peut-être plus de la fiction non autobiographique que dans les deux autres romans. Il y a un petit peu moins un côté journalistique que dans les deux autres recueils. Il y a des nouvelles absolument fabuleuses. Donc, je vais lui poser des questions là-dessus. Mais c'est chaque fois... des choses qui sont très américaines. Par exemple, il y a une histoire qui est une espèce de road movie où on part de l'Est en voiture et on rencontre des gens. Donc, c'est typiquement hein, la structure du roman américain de la conquête de l'Ouest dans le road movie ou le road novel. Mais en même temps, ça a quand même une tragédie extraordinaire. C'est un roman, une nouvelle, il vous en lira un extrait qui s'appelle Son véritable nom. Donc c'est un marin qui finit son service et qui prend une voiture qui va à l'ouest. Et il rencontre dans un bled paumé de l'Illinois ou je sais plus trop où, une fille qui tient la station service. Donc et puis elle s'ennuie beaucoup. Donc il part à l'autre bout de la ville et puis il revient la chercher, ils partent tous les deux. Donc ils deviennent amants et puis se rend compte au bout d'un moment qu'en fait elle a plus de cheveux, donc elle a une perruque et qu'en fait elle est en train de mourir d'un cancer. Et donc elle meurt. Elle entre dans des spasmes absolument horribles. Il rencontre un docteur, alors très film américain, docteur fou qui boit tellement qu'on l'a rayé de l'ordre des médecins, mais qui a quand même de la morphine. Et puis ensuite il va enterrer, donc la fille meurt malgré les soins et le personnage... héros, si on peut dire, par jeter la fille dans l'eau vers Seattle, qui est le lieu d'origine de Charles d'Ambrosio, pour pas qu'on la retrouve. Et là, il y a une espèce de miracle qui se passe, une vision sur un incendie qu'il y a dans la montagne. Et donc, ça se transforme, ça fait un petit peu histoire de Flannery O'Connor, avec une espèce de métaphore à la fin du feu sur la montagne. C'est très étrange. Et ensuite, il y a plusieurs histoires qui se passent dans la région de l'État de Washington, donc tout à fait le Nord-Ouest, ou dans l'État de... Oui, vers l'Oregon. Il y en a une autre très belle aussi, je vais demander d'en lire un extrait, qui s'appelle Jacinthe. Et c'est l'histoire d'un couple qui s'aime beaucoup, qui vit dans les vergers de la région de la vallée de la... Enfin, dans la vallée de la Columbia. Une vallée très très riche avec plein de vergers, qui apparaît très peu dans la littérature américaine. C'est une région qui est pas traditionnellement encore très, encore devenue littéraire, mais ça commence. Et ils ont un enfant qui meurt au bout d'un an quand elle se noie dans une espèce de baignoire où il a trop plu, elle est à l'extérieur. Et à ce moment-là, le mari change complètement. Et donc c'est tous les jours, comment la femme perçoit l'éloignement de son mari et la cruauté de son mari. C'est très, très fin. Et la femme part. Mais c'est vraiment parfait. J'ai lu ça hier et j'étais vraiment très, très émue. C'est magnifique. Voilà. Alors, maintenant, je pense que c'est assez en général. Je vais maintenant leur poser des questions. Alors, je commence par peut-être Jack O'Connor. Et je vais lui demander comment il a inventé sa ville, parce que c'est une ville très étrange. So, my question would be, how did you invent Guizikamund?
Quinsigamond is my fictional city, my construct, where all of the my five novels thus far take place, and it is based on my hometown of Worcester in Massachusetts, which is about 40 miles west of Boston. But I like to assure people that Quinsigamond is about 10 times larger than Worcester, both in terms of population and landmass, and about 150 times darker than Worcester. It is also, Quinsigamond is also distilled from so many of the great dark American cities of fiction and film, particularly film, I guess. It is drawn
very
from...
Very cinematographic.
Yes. Chinatown and Alphaville and Gotham City. And it is also drawn in part from some of the great American cities that fell into decline over the 20th century, the late 20th century, Detroit and Akron, Ohio. There are parts of Quinsigamond that are based on the East Village in New York and parts that are based on Watts in the early 60s in California. So it is an amalgam of different influences that all combined inside my overheated imagination.
Okay. Très bien. Alors, Quincy Gammon, donc, et sa ville de fiction qu'il a créée de toutes pièces. Les cinq livres qu'il a écrits se passent à Quincy Gammon. Et cette ville a été créée à partir de sa ville natale, qui est Worcester, dans le Massachusetts, non loin de Boston. Pour lui, cette ville est... il dit qu'elle est 10 fois plus grande que Worcester, pardon, plutôt que Worcester. Mais par contre, elle est 100 fois plus sombre et violente que sa ville natale. Il s'est aussi basé pour créer cette ville de fiction sur les grandes villes américaines du cinéma, notamment Chinatown ou Alphaville ou Gotham City même. Et également, il songe en écrivant à toutes ces grandes villes comme Détroit, qui ont connu le déclin à la fin du XXe siècle. À certains moments, il pense à l'East Village de New York ou à Watts en Californie, dans le Watts des années 60, par exemple. Donc, c'est un amalgame de tout ça, en fait.
OK, my next question will be for you, Charles.
Okay.
Ready?
Mm-hmm. Well...
So I would like to ask you about the way. Tu peux traduire mes questions comme ça. I would like to ask you about the way you write about Seattle in some of the later stories, and about how you look at the way, in fact, there's no culture there, and how you seem to be attracted to the culture in the East, and so also attracted to culture in Europe, mm-hmm. and so the way you describe this city that seems to make no sense, totally devoid of meaning, mm-hmm. you have that in several stories. Mm-hmm. Can you talk about that?
Je vais traduire
yes.
la question.
Ok, vas-y.
Oui. Juste, je lui pose la question un petit peu parallèle, parce que lui, il écrit beaucoup sur Seattle et sur ce manque, ce vide au niveau culturel qu'il ressent à Seattle et son attirance avec tout ce qui se passe à l'Est et notamment dans l'un de ses essais, l'Europe, Paris plus précisément. Voilà.
Okay, just to clear things up, should I just break things up into small
I'll
bits?
Just tell you if it's too long for me.
Oh, okay. My preference would be to break it up into okay. smaller pieces,
sure.
So that I don't kind of just go on and on. The question about culture in Seattle is really kind of a little bit of a question about culture in the American West, mm-hmm. rather than Seattle's particular problem. I think one of my favorite American writers, contemporary American writers, Thomas McGuane, said that in order to find American history in the West, you need a shovel. It's not really something that's available to us, and in a culture that's kind of premised on the ability to remake yourself, of course, one of the ways you remake yourself, particularly in America, is by remaking history or undoing it or building something new in its place. But there are costs to that. There are costs not having a kind of historical markers, to not having a depth of culture, and so that's kind of the area of my concern. In this world that doesn't lend much guidance, how do people find their way? I guess would be the idea.
Très bien. Donc, pour lui, ce n'est pas tant la question du manque de culture à Seattle, mais plus généralement de l'Ouest américain. L'un de ses écrivains préférés a dit que pour trouver l'histoire dans l'Ouest américain, il faudrait une pelle pour creuser un petit peu. Cette culture américaine qui est basée sur la réinvention permanente des êtres et des hommes, évidemment s'accompagne de la réinvention permanente de l'histoire et donc de la culture également. Et lui, il pense qu'il y a un prix à payer pour tout ça, que ça ne vient pas sans rien. C'est ce qui l'inquiète un petit peu, en fait. C'est pour ça qu'il se penche là-dessus dans ses livres. Il se demande comment on peut faire sans ses repères.
Yeah. And I would also just add that the West has is a place of kind of great expectations and hope. I mean, metaphorically, it sets those up in America. So if it's a place of great hopes, it's also a place of great disappointments. It's been called our the native home of hope, and we've always had a West, even when the West didn't exist. It could have been walled and pawn. It could have been at one point the Northwest Territory in the United States was Ohio. We seem to need that. But when you, like me, have grown up against the edge of the ocean, once that story's played out, once the West, you've gone all the way to the West and have not found fulfillment, you start to look around in kind of bafflement at your environment. Why wasn't this the apotheosis of the American dream? Or maybe it was, and I just missed it. That bothers me, too.
It rains too much in Seattle.
I'm angry about that.
It rains too much in Seattle to be the American dream.
Ok, donc il explique que cet Ouest américain qui entraîne tellement d'espoir et d'attente de la part des gens, forcément ça entraîne également le contraire, c'est-à-dire le désespoir et puis les attentes qui ne sont pas, qu'on n'arrive pas à excuse-moi, je perds les. Enfin, bref, donc l'espoir et le désespoir, même lorsque cet Ouest mythique n'existait pas, il y en avait déjà un et ça a toujours été l'esprit des Américains. Donc ils ont besoin de ça, enfin, c'est comme un besoin. Pour lui, comme il a grandi dans cette ville qui est contre l'océan, évidemment, il n'y a plus rien après. Donc c'est pour cela qu'il s'est retourné et qu'il a regardé vers l'Est. Et il se sent un peu bafoué de ce rêve américain un petit peu. Il se demande où est-ce qu'il est, lui, effectivement, puisqu'il ne peut regarder, il n'y a que l'océan devant lui. Il se demande peut-être, si ça se trouve, il y est, le rêve américain, mais il l'a raté aussi. Il se demande ça.
Et s'il l'a raté, alors c'est vraiment dramatique. Okay. Do you want to add something, Charles? Oh. No? And what about you then, Jack, since you live in the East? How do you feel about the West? Because your East is absolutely corrupt.
The East in my books and my imagination is corrupt, yes, absolutely.
So what's left if the West is not there, the East is corrupt?
You have to go inside. The great frontier is internal, I think. And I guess that Charlie would probably agree with that. the West for an Easterner, a lifelong Easterner like myself, is exactly what Charlie just described, probably without the disillusionment, because by never going there, we're able to continue to maintain the illusion that if only I got in the wagon and moved westward, my dreams would be realized.
Donc pour lui, Bernadette demandait effectivement, comme lui, il se trouvait à l'Est, qu'est-ce qu'il pensait de l'Ouest de Charles. Lui, il expliquait que son Est à lui est corrompu. En fait, il pense que la grande frontière, effectivement, elle existe pour lui également, mais la plus grande frontière qui peut exister, c'est plutôt celle qu'on a à l'intérieur. Donc, en fait, lui, étant un homme vivant à l'Est, il garde cette illusion de l'Ouest américain un peu mythique. Il espère, enfin, il veut la garder en tout cas. Il ne pense pas comme Charles. Il espère que c'est vrai, tout simplement. Voilà.
C'est pour ça qu'il ne veut pas y aller. Okay, my next question would be about the influence of religion in your work and on the Bible and for the two of you, because you have quite a lot of stories about, in which characters are Catholics and deeply haunted by that, and same with you, and the haunting would be maybe just biblical, not just Catholic. Can you explain each, about this influence?
Juste, elle demande leur influence sur la Bible et la religion des deux côtés, d'une manière différente.
L'influence de la Bible sur leur...
et de la religion.
C'est très catholique, hein. Enfin, c'est très catholique. Les deux sont catholiques, Mais ça ne s'exprime pas tout à fait pareil, mais c'est complètement prégnant. Alors ça, c'est évidemment une marque complètement, totalement américaine hein, de la littérature, puisqu'on retrouve difficilement ça chez nous depuis qu'on a plus Gide ou Mauriac. Mais chez eux, c'est toujours dans la littérature, même hyper contemporaine, c'est vraiment très, très prégnant. Donc je leur demande, parce que c'est, ça saute aux yeux. Hein. So who's going to answer first?
I'll dive in. Well, maybe we'll make it a little bit more conversational on this one, because I don't know if I can shoulder the, you know, the full burden of it. Part, you know, I was raised Catholic. And so to me, writing about people who are have questions of faith or are haunted by the church or haunted by, religion or, is no different than writing about trees. It just, there were Catholics in the neighborhood and there were trees, and so it's something I know.
But what about being a Catholic in a country that was still predominantly Protestant until fairly recently?
Well, America's a strange place as far as religion. I mean, people actually believe Americans' general idea of religion is that, Jesus might come to your house for dinner. That's our idea of it. But that's not really Catholicism. I think there's,
No, that's the evangelicals.
People believe in angels. It's like America's full of wackos.
Speak closer, maybe.
I'm shouting. You'll get there.
Push the button.
But my Catholicism, is a very particular Catholicism. Everyone I knew, I didn't know anybody who wasn't Catholic. It was shocking to me to go out into the secular world and encounter people who'd been divorced.
That's Italian Catholicism.
Not really. I didn't grow up very Italian. My Italian family's all in Chicago. They're all mobsters, and they're indulging the corruption that my dad was the one who left.
That's the era.
Okay.
I'm sorry. This is not going to be.
I'll try my best. Anything you want to add?
No.
Okay. Donc, pour lui de...
I don't know what I said. I couldn't clarify.
It's very weird. Pour lui d'écrire sur la religion, c'est comme d'écrire sur les arbres. Il a dit, il y a une église et un arbre à côté. C'est tout à fait naturel pour lui. Il a été élevé dans la religion catholique. C'est parce que c'est quelque chose qu'il connaît. Voilà, c'est pour ça qu'il écrit sur la religion. Il trouve que les États-Unis sont un endroit très étrange à ce propos. Il y a beaucoup de gens bizarres par rapport à la religion qui croient aux anges, qui pensent que Jésus pourrait peut-être venir chez eux pour dîner. Enfin voilà, donc il y a toute cette image comme ça de religion un petit peu étrange. Et lui, il a vraiment été élevé dans la plus pure tradition catholique. Et quand il a vu un petit peu le monde, il était choqué de voir que les gens pouvaient divorcer, par exemple.
And I would say, I don't know how to exactly carry it forward because it's such a complex issue, but I know that in a lot of my thinking, both in fiction and nonfiction, there's kind of been a persistent attempt on my part to move my Catholicism to something more existential, mm-hmm. or that squares with a kind of existential Catholicism. And that, I think, gets felt between the lines. It's not something that's articulate to me, but I know that it was an obsession, something that was on my mind.
You can feel it. I mean, that's why I'm asking the question, because it's something, definitely present, yeah.
Yeah. But the stories are sort of evidence of the need to explore and work that out rather than an articulation. Mm. It's not very articulated in me, in other words. Mm. Maybe more in the stories.
Okay, donc pour lui de parler de religion et d'y réfléchir, en fait, c'est très important. Et il tente, à travers son écriture, de se rapprocher d'une religion qui est plus existentielle pour lui. Et c'est quelque chose qui a à lire un petit peu entre les lignes dans ce qu'il écrit. C'est à un moment donné un petit peu une obsession également. Et donc, c'est pour ça, à travers ces histoires, il avait ce besoin d'explorer un petit peu ce côté-là de la religion.
Now your turn.
Well, like Charlie, I was raised Catholic. In fact, I was raised Irish Catholic, which is a psychosis unto itself. We probably don't have enough hours tonight to delve into it. We would need a room full of Viennese analysts. My entire formative education was Catholic. I attended Catholic schools for 17 years.
Jesuits?
Jesuit in college, yes. Jesuits in college.
Me too, high school.
Well, we share quite a few things. What I would say is the way that this has played out in my life seems to be that, especially right now, right at this moment, I turned 50 on Christmas Day. This Christmas Day, I will turn 50 years old. And so what has been an ongoing concern with metaphysical questions in a religious or theological context is now obsessive. It is now obsession. And the way it has played out is, I find, to the degree that I'm able to enact self-analysis, the way that it's played out is in sort of ongoing paradoxical conflict, which is to say, Mondays and Fridays, I am a strident and angry atheist. Tuesdays and Thursdays, I have a deep hunger for the spiritual, and Wednesdays, I take Wednesdays off and just read and go to the movies. So, but there's no way that you can't undergo that kind of formational experience and not have it
sequels,
pop up somehow in your work. I mean, there's an undercurrent of it in in your work. I mean, I can't imagine otherwise.
Yeah, that's why you found you invented this crazy Jesuit.
Yes.
Le sang jésuite est absolument horrible, hein, c'est lui qui crucifie les autres. Et en fait, qui fait comme une espèce de freak évangélique. Ok, vas-y.
Oui, Donc, pour lui, c'est un petit peu pareil. Lui, il a été élevé dans la religion catholique, mais irlandaise. Donc, c'est difficile en soi à gérer, peut-être encore plus pour lui que... Enfin, c'est une partie... Les Irlandais sont un petit peu particuliers à ce niveau-là. Il a passé 17 ans dans diverses écoles, et notamment jésuites. Il explique qu'il va avoir 50 ans le jour de Noël là, et donc il commence à de plus en plus à se poser des questions métaphysiques sur la religion. Ça devient un petit peu une obsession lui et pour lui également, et que il trouve vraiment qu'il est en conflit permanent avec sa religion. Alors il expliquait qu'il se retrouvait il définissait ça un petit peu de manière ironique en disant que le lundi et le vendredi il est athée, le mardi et le jeudi il est plutôt très très catholique, et le mercredi il prend un jour de congé, il fait autre chose en fait. Mais donc c'est pour ça qu'il dit que c'est forcément ça se retrouve dans son écriture, ça, il ne peut pas en être autrement pour lui.
Okay, Chance, can I ask you a question?
Sure.
Okay, how did you come to... I mean, how do you start writing your stories? I mean, do they come like this? Do you decide to write on a specific topic? Do you decide to right wrongs?
Comment est-ce qu'il écrit ses histoires? Est-ce qu'il se...
Comment elles lui viennent? Est-ce qu'il essaie de corriger les torts de la société?
Huh. Yeah, I don't know if I've ever tried to right wrongs.
I mean, that's a joke.
I've actually tried to write angry, and it doesn't work. Somehow angry banishes the fuller play of imagination. I'm not good at being angry. It doesn't. Nothing ever comes off rich enough. It comes off narrow. People are. If you write out of anger, what you end up doing is creating lots of small broken people. That's how you beat them up, and your stories don't live. So you have to somehow It almost seems like in writing, in order to write, you have to love the people you hate even more in order to really create them. Mm-hmm. And if the people you really love in your stories, you have to kind of be skeptical of. You have to, like, you know, hesitate in front of them.
Yeah, but it's obvious that you love your people.
Well, I do, yes. You have to love all of them. It's rather godlike,
but
actually.
But how do they come?
What's, how do they come? Oh, I got off. Sorry, I got off on the topic of hate. Each story is very different in its genesis. One of the difficulties of short stories is that you're always kind of engaged in some of the hardest parts of any kind of writing, which is beginning and ending things. And in a book of stories, you do it 8 times. And it's very, very difficult. They come up from all over. I've stolen anecdotes from dinner parties right out from under people. They tell a funny story, and I think, oh, I'm using that. You're going to wish you didn't tell it. Little pieces of dialogue that I overhear. An image. Her real name. The story you mentioned. I just one day, for no reason, saw this man and woman, and you know, had this image of a man and a woman sitting in a car with a wig sitting between them. I had no idea, but it was interesting to me, and I wrote one paragraph, and I didn't write the story for probably a year or two, mm-hmm. but I had this one paragraph that describing these people, and then at a certain point, I wanted to know where they were going and who they were and what that wig was.
It works marvelously well, yeah. But we never find the real name.
No.
That was the point.
OK, so you can translate here, go ahead.
Donc il explique qu'il a essayé déjà de, notamment de, d'écrire quand il était en colère et que ça ne marchait pas. Et que quand il fait ça, ses personnages sont étroits un petit peu. Ils sont petits. Donc ça ne marche pas. Il en arrive à la conclusion qu'il faut aimer encore plus les personnages qu'on déteste et être plutôt sceptique vis-à-vis des personnages qu'on aime bien. De toute façon, il faut l'important, c'est d'aimer tous ces personnages et ça a un côté un petit peu démiurge, un petit peu Dieu dans cette idée. Pour lui, chaque histoire et chaque nouvelle est différente. Et quelque part, c'est un exercice plus difficile qu'un roman parce qu'il faut qu'il s'attelle. Là, pour certains recueils de nouvelles, il y en a 8, 10, donc au moins peut-être une dizaine de fois, il faut qu'il s'attelle à ce qui est le plus difficile dans l'écriture, c'est-à-dire le début de l'histoire et la fin. Mais il prend des idées un petit peu partout. Il explique que, par exemple, il a volé certaines anecdotes dans des dîners et qu'il les a reprises après. Il parle également de cette nouvelle dont il va lire un extrait tout à l'heure qui s'appelle Son vrai nom en français. Comme ça, de nulle part, il a eu cette image d'un homme et d'une femme qui étaient dans une voiture qui roulait. Il y avait une perruque entre eux deux. Et donc il a écrit ce premier paragraphe, puis il n'a plus rien fait pendant un an ou deux, il a laissé tel quel. Il ne savait absolument pas où est-ce qu'ils allaient, ce qu'ils faisaient ensemble et ce qu'ils allaient devenir, mais c'était son point de départ.
Voilà. Et il a eu envie de savoir où vous allez, donc c'est pour ça qu'il a écrit l'histoire. Ok, so I'll ask you the same question.
Sure.
How do you invent your world? And are you trying to right wrongs?
To right wrongs? I'm because helpless. I can't even write the wrongs in my own life.
No, but it's so much like the roman noir in which people are trying to cleanse the world, cleanse the world, yeah.
Exercise. I think that in terms of where stories come from, I probably can't improve on the answer I heard at a very impressionable age. As a young writer, I heard the great American writer Raymond Carver say, that stories came to him through his eye and through his ear, and I'll abridge his marvelous illustration, which was he gave two examples, and one was that he was in a coffee shop in New York, and he tells the story beautifully. I'm not doing it justice here. And a couple came in and sat behind him. He never saw them, But they began to have an argument that was escalating, which ended when the woman pounded the table and he heard a coffee cup knock over, and then he heard her say, "That's the last Christmas you'll ever ruin for us," and leave. And he said, "That was a, I had a story. I knew I had a story," through his ear. And then the second example he gave was he got on an airplane and a businessman in a suit sat down next to him, never spoke to him for 5 hours. And when the pilot announced that they would be landing in 5 minutes, he saw the businessman do this and remove his wedding ring. There's a story right there. There's about six stories, perhaps. I find, and I'll try to be brief, that my favorite stories are gifts to me. Literally, they've been given to me. My first book came to me one night out to dinner with my wife to celebrate her birthday. And we were driving home, and a postal truck, a U.S. Postal Service truck, drove by us on a lonely little secondary road. And my wife said, "Did I ever tell you what happened to me at the post office one night?" And when a writer hears a phrase like that, the antenna on his head just begins to quiver. And her story was, again, to a bridge. She was a night sorter in a post office, and she received a package came across her cage that had something wrong with it. It smelled bad, and there was some seepage on the bottom. And
come
she
on
was,
there.
She, one would hope. One would hope. She was instructed by her supervisor to open it, and when she did, there was a dead bat inside the package. Which, so for a writer, you want to pull to the side of the road when you hear that, because it suggests a thousand questions that will build a story. You know, why do you send somebody a dead bat? What has someone done to deserve getting a dead bat in the mail?
Donc il a expliqué plusieurs choses. Il dit notamment qu'à un tout jeune âge, quand il commençait sa carrière d'écrivain, il a été très marqué par quelque chose que Raymond Carver, le grand écrivain américain, a dit. Il lui-même disait, Carver, que ses histoires lui venaient à travers ses yeux et ses oreilles. Donc il racontait deux anecdotes à ce propos. Un jour, il se trouvait dans un café à New York et un couple est entré et s'est assis derrière lui. Et en fait, il ne les a jamais vus, il les entendait seulement. Et ils se disputaient, en fait. Rien qu'en entendant ce couple se disputer et la femme dire, s'en aller en disant que plus jamais ils ne passeraient de Noël ensemble et plus jamais les Noëls ne deviendraient une catastrophe à cause de son mari, il s'est dit, ben voilà, ça y est, j'ai une histoire. Il explique également qu'un jour, il s'est retrouvé dans un avion et qu'un homme d'affaires s'est assis à côté de lui et pendant 5 heures, ils ne se sont jamais parlé, mais que juste avant d'atterrir, le pilote a dit, nous atterrissons dans 5 minutes, et il a vu distinctement cet homme qui enlevait sa bague son alliance. Et donc, il s'est dit, ben voilà, j'ai une histoire, ou peut-être plusieurs histoires même. Donc, voilà, toutes ces choses qu'on peut voir ou entendre et qui déclenchent un petit peu l'imagination de l'écrivain. Donc, pour lui, toutes ces histoires à lui qu'il a écrites, il les perçoit comme des dons, comme des cadeaux qu'il reçoit. Il raconte celle qui l'a le plus marqué. Concernant son premier livre, il partait dîner avec sa femme pour l'anniversaire de sa femme. Ils ont croisé sur la route un camion de la poste. Et sa femme s'est rappelée de quelque chose. Elle lui a dit, mais je t'ai jamais raconté ce qui m'était arrivé quand je travaillais à la poste. Et en fait, un jour, elle triait les colis. Et elle s'est retrouvée avec ce colis qui était un peu humide. Enfin, ça avait coulé de l'intérieur, ça sentait mauvais. Et à l'intérieur, évidemment, ils ont été obligés de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il y avait une chauve-souris qui était morte à l'intérieur. Et donc, évidemment, lui, en tant qu'écrivain, tout de suite, ça déclenche toutes sortes d'idées. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait envoyer une chauve-souris morte à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il avait fait pour le mériter? Enfin, tout cet enclenchement, en fait, d'histoire.
OK, can you go and explain what you get? Why did you build these incredible stories?
I think in retrospect, I think that all of my work so far, even more than I realized at the time, is really a product of the time and place that I came of age. I didn't have like a historical context to understand what was happening to my hometown as I was growing up. But very simply, you know, the economic center just gave way. You know, everything that we built in my town was no longer needed. And so people vanished, and we were left with just huge red brick factories everywhere. And my father was a local businessman in the town. He was a man of great energy and constant ventures, and he got bored easily, so he would start up little businesses, and as soon as they got going, he would move on to something else. And his methodology for these ventures was to drive through town. He would just drive for hours and hours thinking, and I was his co-pilot. I would sit, you know, at 7, 8, 9 years old, I would sit in the passenger seat. And he tended to drive in the oldest part of town because that was where he grew up. He grew up in the tougher part of town, the more decimated, desolate part of town. And so as a child of 7, 8, and 9 years old who knew, for better or worse, from the beginning that the only thing I wanted to do or very likely could do was write, was to tell stories, make stories, this was just marvelous, you know, because I looked out on, you know, flickering neon signs, and I looked out on, you know, dead-end alleyways, and I looked down on, you know, housing projects and broken-down tenements, and especially those haunted-looking factories. And I said, boy, I could make some stories out of these things. And then years later, I started to see those landscapes reflected in, when I began to, you know, obsessively watch film noir, you know, and neo-noir in the 70s when I was a young teen, I would look to the screen and then I would walk home through the landscape, and eventually it dawned on me, boy, those stories on the screen seem to be taking place in the same landscape where I live. So my city tended to form a certain kind of story for me to tell.
Ok, donc pour lui, en fait, il explique qu'au niveau du contexte, il n'y avait pas vraiment de contexte historique, c'était plutôt le contexte vraiment de sa ville natale, Worcester. Il a grandi à une époque où le centre économique de la ville disparaissait au fur et à mesure, les gens déménageaient. Il ne restait plus que des usines en ville. Et son père, lui, était une sorte d'homme d'affaires qui essayait toujours de trouver une bonne idée, etc. Pour cela, il aimait prendre sa voiture et conduire dans la ville, regarder un petit peu ce qui se passait de la voiture. Et donc Jack O'Connell s'est retrouvé copilote de son père à l'âge tendre de 7-8 ans. Son père avait grandi dans la partie un petit peu difficile, les quartiers un petit peu difficiles de la ville. Ben voilà, il se retrouvait à regarder, à observer toute cette ville un petit peu, le côté difficile de la vie là-bas. Et comme depuis le départ, depuis tout petit, il savait qu'un jour il écrirait des histoires, enfin en tout cas qu'il voulait raconter des histoires, tout ça, toute cette expérience avec son père, c'était merveilleux pour lui de voir ce paysage comme ça qui défilait et qui nourrissait son imagination encore une fois.
Ok. Could we now have some reading? Charles, do you want to read a little bit of...
Sure.
Okay, so I have to... Tu l'as le gap? Tu l'as le cap? Je voulais que je lise ensuite en français le petit bout où tout le monde comprend l'anglais?
I'll read...
Ok. Vous l'avez le cap? Ok. Just tell me which one. The beginning of... The real name, okay, fine.
And two paragraphs?
Yeah, okay, fine. So I will read the French translation afterwards.
So?
Okay.
Yeah, not, I mean...
Should I do
maybe,
one?
Maybe one.
Just one
maybe
paragraph.
One.
It's a long paragraph.
Okay, so it's just written... Okay, it's a real name, right? Okay.
This is actually the...
The second story, right?
Yes.
Okay.
The girl's scalp looked as though it had been singed by fire. Strands of thatchy red hair snaked away from her face, then settled against her skin, pasted there by sweat and sunscreen and the blown grit and dust of travel. For a while, her thin hair had remained as light and clean as the down of a newborn chick. But it was getting hotter as they drove west, heading into a summer-long drought that scorched the landscape, that withered the grass and melted the black tar between expansion joints in the road and bloated like balloons the bodies of raccoon and deer and dog, and made everything on the highway ahead ripple like a mirage through waves of rising heat.
Since leaving Fargo, it had been too hot to wear the wig, and it now lay on the seat between them, still holding within its webbing the shape of her head. Next to it, a bag of orange candy, smiles, she called them, spilled across the vinyl. Sugar crystals ran into the dirty stitching and stuck to her thigh. Gum wrappers in greasy white bags littered the floor, and on the dash, amid a flotsam of plastic cups, pennies, and matchbooks, a bumper sticker curled in the heat. Expect a miracle, it read.
Okay. Donc je le lis en français. Le scalp de la fille semblait roussi par le feu. Les mèches incandescentes de sa crinière, tordues comme des serpents, lui dégageaient par instant le visage et revenaient s'y poser, collées à la peau par la sueur, la crème solaire, le sable charrié par le vent et la poussière du voyage. Ses cheveux clairsemés étaient restés propres quelque temps, mousseux comme le duvet d'un oisillon tout juste éclos. Mais plus on allait vers l'ouest, plus il faisait chaud. On entrait dans une sécheresse aussi longue que l'été qui rôtissait le paysage, flétrissait l'herbe, faisait fondre le goudron noir entre les joints de dilatation de la route, gonflait comme un ballon le corps des ratons laveurs, des cerfs, des chiens, et à travers les nappes de chaleur montante faisait onduler tel un mirage tout ce qu'on avait devant soi sur la nationale. Passé Fargo, il faisait trop chaud pour porter la perruque, posée maintenant entre eux sur le siège de la voiture et dont la toile conservait la forme de sa tête. À côté d'elle, un sac de bonbons à l'orange répandu sur le vinyle, ses sourires comme elle les appelait. Des cristaux de sucre ramassés dans les coutures sales lui collaient aux cuisses. Des papiers de chewing-gum et des sacs blancs graisseux jonchaient le sol. Sur le tableau de bord, parmi des gobelets en plastique, des pièces de monnaie et des pochettes d'allumettes à la dérive, un autocollant corné par la chaleur. Attendez un miracle, disait-il.
Pendant qu'il prépare, c'est de ce livre qui s'appelle Dans les lames en français. C'est une histoire très étrange qui diffère passablement des autres. C'est l'histoire d'un père dont l'enfant est dans le coma et qui l'amène dans une clinique qui fait très clinique aussi de cinéma horrible parce qu'il n'y a que des gens qui sont dans le coma et qu'on garde là, donc avec une infirmière très étrange, etc. Enfin, c'est un monde très blanc, très frigide, stérile, c'est très très étrange. Et le gamin a un pyjama avec des espèces de petits personnages dessus et le père lui lit des histoires comme des bandes dessinées. Et en fait, ce sont les petits personnages qui prennent vie. Et là, on tombe comme dans le film de Freaks de Ted Downing, si vous avez vu ça. Donc, tous ces personnages s'animent et doivent s'enfuir parce qu'ils sont sans arrêt menacés d'être tués. Et donc, vous avez quelque chose d'à la fois complètement immobile, blanc, froid, horrible, et l'autre chapitre qui va être totalement délirant avec tous ces gens qui se poursuivent. C'est très, très étrange.
I'll just read that first one.
They came from the city of Mizell, in the heart of old Bohemia, land of pogroms and demonology. They became a family in the most binding way of all, through a shared and pitiless suffering. Make no mistake, the oldest truths are the most reliable. Persecution ties a people together. To be different is to invite oppression. To wear your difference on your body, on your face, this is to invite eradication. Unless, of course, your difference is so grotesque that the crowds will pause to study, to celebrate, to marvel at your misfortune for a short time before they smite you. Then, and only then, will you have a chance to escape.
Il venait de la ville de Mézel, au cœur de l'ancienne Bohême, terre de pogroms et de démonologie. Ils devinrent une famille de la manière la plus irrévocable qui soit, par le biais de cruelles souffrances partagées. Ne vous y trompez pas, les vérités les plus anciennes sont les plus fiables. La persécution soude un peuple, le rassemble. Être différent, c'est inviter à l'oppression. Porter sa différence sur son corps, sur son visage, c'est inviter à l'éradication. Sauf, bien sûr, si votre différence est tellement grotesque que les foules, bouche bée, viendront examiner et célébrer un court moment votre infortune avant de vous fustiger. Alors, et seulement alors, aurez-vous une chance de vous échapper.
Thank you.
Merci.